Thank you. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est là et il veut encore nous instruire. Il veut encore nous édifier, nous parler comme il l'a fait autrefois à ses disciples. Lorsque les disciples d'Emmaüs étaient en contact avec le divin berger, il est dit que leur cœur brûlait au-dedans d'eux lorsqu'il leur prêchait la parole. Et c'est un très bon signe lorsque nos cœurs sont touchés par sa présence, lorsque nos cœurs sont réchauffés par sa présence, nous sentons cette chaleur intérieure, la chaleur de sa présence qui nous fait du bien, qui nous dit qu'il nous aime, que nous sommes à lui, que nous lui appartenons, qu'il est le Sauveur, que son nom soit béni éternellement. Alléluia. Et qu'il bénisse sa parole encore, car c'est sa parole qui nous montre le chemin que nous devons suivre et comment nous devons l'aimer. Lui-même, il a dit aussi, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples. » Si nous demeurons dans sa parole, ainsi, nous devons constamment nous attacher à cette parole si nous voulons être les vrais disciples du Seigneur. Que son nom soit béni. J'aimerais qu'on voit ensemble un sujet qui est important pour chaque chrétien. Bien souvent, en tant que chrétien, nous nous posons souvent la question, est-ce que la vie de Dieu agit en moi? Est-ce que l'Esprit de Dieu agit en moi? Est-ce que vraiment l'action de Dieu dans ma vie est réelle? Ou alors est-ce que je me fais des illusions? Constamment, nous devons nous réexaminer dans notre foi, comme le dit l'apôtre Paul, et voir un peu quels sont les signes de la vie nouvelle qui est en nous. Cette vie nouvelle qui est en nous lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés et que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Maître, et où nous avons pris la décision d'obéir à sa parole. À partir de ce moment-là, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment savoir si toutes choses sont devenues nouvelles dans notre vie? Parce que lorsque quelqu'un est chrétien, lorsque quelqu'un a accepté Christ dans sa vie, il y a des choses qui changent, n'est-ce pas vrai? Je ne veux pas dire qu'on devient parfait, mais il y a des choses qui changent. Notre mentalité change, notre état d'esprit change. Notre façon de voir, de concevoir Dieu, de concevoir les hommes, la façon de nous voir nous-mêmes aussi change. La façon de voir le monde, la façon de voir notre mari, notre femme, nos enfants, tout change lorsque Christ habite dans notre vie. La conversion, selon la parole de Dieu, est une véritable révolution spirituelle qui change la personne, non pas en surface, mais en profondeur. Si bien que lorsque quelqu'un dit qu'il est chrétien et que sa vie n'est pas changée, alors on peut être certain que cette personne n'est pas chrétienne, n'est-ce pas vrai? On ne peut pas se dire chrétien et avoir toujours la même vie qu'avant. Mais il y a des signes. Quels sont ces signes? Et la parole de Dieu est là pour nous aider à voir et à constamment réexaminer notre foi. Chacun. Et moi aussi, continuellement, je dois réexaminer ma foi pour voir si elle est en bonne santé, pour voir si la vie de Dieu qui est en moi peut s'écouler librement, naturellement, et que l'image de Jésus continue de paraître et d'apparaître dans ma vie et au travers de ma vie. Alors j'aimerais vous donner ce matin les 7 signes d'une vie nouvelle, de la vie nouvelle en nous. Les 7 signes. Comment savoir que cette vie de Dieu agit en nous? Vous connaissez ce verset, Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Une vie abondante. Et dans le texte grec, le mot abondant ici veut dire en surcroît. Autrement dit, Dieu nous donne non seulement la vie pour nous, mais il en donne assez pour que nous puissions bénir les autres. Alléluia! Gloire à Dieu! Pour que nous puissions être en bénédiction aux autres. La volonté de Dieu n'est pas que nous ayons simplement la vie nous-mêmes. Parce que si nous ne vivons que pour nous, nous n'y vivons pas, nous vivotons. Nous subsistons, nous ne vivons pas. Si notre vie n'est pas une bénédiction aux autres, alors nous subsistons, c'est tout. Mais la vie abondante que Dieu veut nous donner, c'est une vie qui est là, en nous, mais qui veut déborder sur les autres. Gloire à Dieu. Dieu veut répandre cette vie. Au travers de nous, il veut bénir les autres. Gloire au Seigneur. Alors, quels sont les signes de cette vie nouvelle en nous? Lorsque nous avons accepté Christ, il doit y avoir des signes. Alors, j'en ai noté 7 ici. J'aimerais que, si vous pouvez les noter, voici donc les 7 signes. Il y en a bien sûr d'autres, mais c'est dans l'épître de Jean que nous allons découvrir cela. Dans l'épître de Jean. Dans l'épître de Jean. Dans l'épître de Jean, nous découvrons 7 signes de la vie, de vie spirituelle en nous. 7 signes. Alors, voici le premier signe. Le premier signe de la vie nouvelle en nous est une nouvelle obéissance. Notez ce point-là. Une nouvelle obéissance. Et nous trouvons ça dans 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2 et le verset 3. Quand Jésus entre dans notre vie, alors il se passe quelque chose. Premier signe de vie spirituelle, quand Christ vient en nous, nous sommes déterminés à obéir. Il y a une nouvelle obéissance qui entre en nous. 1 Jean chapitre 2 verset 3, voici ce qu'il est dit. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, versets 4 et 5 aussi, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Alors le verset 3, je répète, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Voyez-vous, il y a là maintenant cette pensée très précise. Si nous disons que nous connaissons le Seigneur, alors, quelle est la preuve? Quel est le signe que nous connaissons le Seigneur? Il y a beaucoup de gens qui disent « Je connais le Seigneur », n'est-ce pas vrai? Un jour, beaucoup de gens sont venus vers lui, et des gens religieux, et qui disaient « Seigneur, Seigneur, toujours ». Il faisait beaucoup de courbettes devant le maître. Et il faisait tellement de courbettes, toujours, toujours. Mais Jésus n'était pas impressionné par toutes ces courbettes, et finalement par toute cette hypocrisie. Et il leur dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» N'essayez pas de m'impressionner en m'appelant Seigneur, Seigneur. Le test que l'on connaît quelqu'un, que l'on connaît Jésus, est donc ici. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Et puis il est dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Vous vous rendez compte? Si quelqu'un dit, par exemple, moi je connais le Seigneur, et qui n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. 1 Jean, donc, chapitre 2, versets 3, 4 et 5. C'est un menteur. Voyez-vous, sans s'en rendre compte, nous pouvons être des menteurs. Et mais quel est le vrai signe, donc, que la vie nouvelle est en nous? C'est que maintenant que nous le connaissons, nous avons un seul but, un seul désir, obéir au Seigneur, nous soumettre à sa parole. Alléluia! Écouter la parole de Dieu, la Bible, nous soumettre à son enseignement, pas seulement lorsqu'elle nous plaît. Il y en a qui se soumettent à la Bible quand ça leur plaît, quand rien ne les dérange, quand ça ne dérange pas leurs habitudes, leurs traditions, leurs idées. Ça, ce n'est pas se soumettre à la Bible. La Bible étant la parole de Dieu, nous devons nous laisser bousculer par cette parole. La Bible n'a pas été écrite pour que nous la jugions. La Bible a été écrite pour qu'elle nous juge. Gloire à Dieu. Amen. La Bible n'a pas été écrite pour que nous la critiquions. La Bible a été écrite pour qu'elle nous critique. et nous dit ce qui ne va pas. La Bible est comme un miroir. C'est comme un miroir. Quand on regarde, on voit ce qu'on est. C'est pourquoi certains n'aiment pas la Bible. Oh non, 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 quand je lis ça, je vois toutes mes imperfections, je vois tout ce qui ne va pas quand je lis la Bible. Ah, mais c'est bien, c'est un miroir. Dieu te montre ce qui ne va pas, et ensuite il te dira aussi ce qui va, et comment changer, comment être transformé, comment marcher droit avec le Seigneur. La Bible n'est pas seulement là pour nous montrer ce qui ne va pas, mais la Bible est là aussi pour nous montrer comment vivre une vie chrétienne victorieuse, comment expérimenter la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la victoire du Seigneur, l'intelligence, la sagesse, le discernement dont nous avons besoin. Alors, le premier signe, donc, de cette vie nouvelle en nous, c'est que nous sommes décidés à obéir au Seigneur. N'est-ce pas vrai? Celui qui garde ses commandements, c'est celui-là qui l'a connu. Autrement dit, lorsque nous sommes prêts à obéir à sa parole, lorsque sa parole est l'autorité finale dans notre vie, et que nous nous laissons bousculer par cette parole, alors nous savons qu'il y a la vie de Dieu en nous. Mais quelqu'un qui est constamment rebelle à cette parole, qui fait fi de cette parole, ou qui l'accepte seulement quand ça lui plaît. Vous savez, il y a des gens qui lisent la Bible à pieds joints. À pieds joints. Quand ils arrivent à un verset, le verset des bénédictions par exemple, tous les versets des bénédictions, des guérisons, des miracles, là, ils les savent bien. Alors ils restent bien là-dessus, oh les miracles, guérisons, Jésus me bénit et tout. Tout le monde aime bien ça, mais quand ils arrivent au passage où il faut obéir au Seigneur, prouver son amour en l'obéissant, on saute à pieds joints. On dit là-dessus, bon là, je comprends pas très bien ce passage. Il est incompréhensible pour moi ce passage. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des choses dans la Bible qu'on ne comprend pas. Il y a des choses... Alors c'est bizarre. Concernant les bénédictions, on comprend tout. Mais quand ça concerne l'obéissance, la consécration, là, j'ai de la peine à comprendre, j'ai de la peine. Qu'est-ce que vous voulez, on ne comprend pas tout. Non, le signe d'une vie nouvelle en nous, c'est que nous sommes devenus désormais des serviteurs. Autrefois, nous étions maîtres de notre vie, et Dieu était un peu comme notre serviteur. C'était lui qui devait faire un peu tout ce qu'on voulait. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, c'est lui le maître et nous, ses serviteurs. Et nous sommes là pour lui dire, Seigneur, ce que tu veux, comme tu veux, ta parole, c'est elle qui va me guider. Je suis prêt à être corrigé par cette parole. Et je l'accepte avec joie, parce que c'est toi, c'est pour mon bien que toujours tu me corriges. N'est-ce pas vrai? Lorsque vous corrigez votre enfant, est-ce pour le mal de votre enfant? Pas du tout. Sur le moment, l'enfant ne comprend pas. Mais plus tard, il comprendra que c'était pour son bien. Et il en est de même avec Dieu. Sur le moment, nous n'aimons pas quand Dieu nous corrige ou nous montre du doigt ce qui ne va pas. Mais c'est un Père plein d'amour qui nous montre cela. Car vous savez vous-même que si vous ne montrez pas, si votre enfant dans un domaine précis a une rébellion ou quelque chose, si vous ne le montrez pas, cet enfant, tôt ou tard, risque de tourner mal. Mais parce que vous l'aimez, vous lui montrez ce qui ne va pas. Même si l'enfant ne comprend pas tout de suite. Mais plus tard, cet enfant vous dira merci. Et un jour, mes amis, écoutez-moi bien, nous remercierons le Seigneur pour cette parole. Même si parfois c'était difficile, même si parfois on avait de la peine à la mettre en pratique. Un jour, nous comprendrons que c'était pour notre bien. Le psalmiste David disait, pour moi, il a été bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts et tes commandements. Alléluia! Alors voyez-vous, le premier signe d'une vie nouvelle en chacun d'entre nous ici, c'est l'esprit d'obéissance. Une nouvelle obéissance. Par nature, nous sommes rebelles. L'homme, il fait ce qu'il veut. C'est ça le péché. Le péché, c'est la rébellion. C'est l'homme qui fait ce qu'il veut. C'est l'homme qui est Dieu lui-même. Il se prend pour un Dieu. C'est cela le péché. C'est la rébellion. Et le salut, c'est quoi? C'est l'obéissance. C'est exactement l'inverse. Et pour prouver que nous sommes vraiment sauvés, alors nous devons manifester un esprit d'obéissance. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. C'est un bon signe. Lorsque vous obéissez, pas seulement quand ça vous plaît, mais quand ça vous déplaît, quand ça vous dérange, quand ça bouscule votre vie, et que vous obéissez, c'est un signe que la vie du ciel, la vie de l'esprit est en vous. Amen. Ça, c'est un signe. C'est un bon signe. Deuxième signe maintenant. Deuxième signe. Un nouvel amour pour Dieu. Un nouvel amour pour Dieu. Un nouvel amour pour Dieu. Pour Dieu seul, j'allais dire. Pour Dieu. Un nouvel amour pour Dieu. 1 Jean 5, 21. 1 Jean 5, 21. Il y a là un passage. Verset 20, si vous voulez déjà. Nous savons que Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître la vérité, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà un passage très important. C'est 1 Jean, chapitre 2, chapitre 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jésus est le Dieu véritable. Autrement dit, tout notre amour doit être pour le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Il n'y a plus de partage. Il n'y en a pas la moitié pour l'un et la moitié pour l'autre. Quand on se donne au Seigneur Jésus, il est là, il prend désormais toute la place. Il y a un autre passage. On doit non seulement enlever les idoles de notre vie, mais tout ce qui est cet amour du monde, qui existe dans le monde, doit aussi être de côté. 1 Jean chapitre 2, verset 15 aussi. 1 Jean 2, 15, voici ce qu'il est dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voyez-vous? Là aussi, c'est un signe que nous sommes une nouvelle créature. C'est quand les choses qu'on faisait avant, eh bien, on ne peut plus les faire désormais. On se sent mal à l'aise. On ne peut plus agir comme autrefois, penser comme autrefois, aller dans les mêmes lieux où nous allions autrefois. Voyez-vous? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voyez-vous, il n'y a pas, les deux amours ne peuvent pas être en nous. On ne peut pas aimer le monde et aimer le Père en même temps. Aimer le monde, c'est quoi? C'est tout ce qui prend la place de Jésus-Christ dans notre vie. Autrement dit, aimer Jésus, c'est lui dire désormais, c'est toi qui prends toute la place dans ma vie. Amen. Le monde, c'est quoi? C'est tout ce qui refroidit notre amour pour le Seigneur. Si vous faites quelque chose qui refroidit votre amour pour le Seigneur, ça vient du monde. C'est l'amour du monde. C'est l'amour du monde. Tout ce qui refroidit notre amour pour le Seigneur, c'est le monde. Et nous devons veiller à cela. Et nous devons dire, Seigneur, chaque fois qu'il nous parle, au fur et à mesure que nous grandissons, Dieu nous montre certaines choses en disant, hey, là, dans telle action, dans telle chose que tu fais, tu vois bien, mon amour diminue chaque fois que tu fais ceci. Ou chaque fois que tu vas dans tel endroit, tu vois bien le feu qui est en toi diminue. Chaque fois que tu regardes telle chose, tu vois bien que le feu diminue. Il y a comme un voile de tristesse qui vient sur toi. Je te demande une chose, mon enfant. Change. Mets ça de côté. Et si nous sommes repris intérieurement concernant ces choses, c'est un bon signe. C'est un signe que l'Esprit de Dieu agit en nous. Mais c'est un très mauvais signe si nous continuons comme avant. Nous regardons des choses du monde. Nous entendons des choses du monde. Et sans que cela ne nous fasse rien du tout. Alors là, c'est une preuve que la vie de Dieu n'est pas en nous. Mais lorsque la vie de Dieu est en nous, alors l'Esprit de Dieu en nous réagit et dit, mon enfant, là, tu ne peux pas regarder cela. Ça ne me glorifie pas. Vous savez, comment savoir si quelque chose est bien ou mal? C'est tout simple. C'est tout simple. Pour comment savoir si quelque chose est mondain ou pas? C'est tout simple. Si vous pouvez regarder avec Jésus ce que vous regardez, vous avez la permission de le faire. Ah mais je ne sais jamais moi ce qui est bien et pas bien, je ne sais jamais. Prends Jésus à côté de toi un jour, fais-le asseoir à côté de toi et dis Seigneur, on va regarder ensemble. Si le Seigneur peut regarder ce que tu regardes, alors tu as le feu vert, tu peux y aller. Mais si le Seigneur Jésus ne peut pas regarder ce que tu regardes, tu ne peux pas le faire. Ça, c'est l'amour du monde qui étouffe le feu de Dieu et le feu de l'amour de Dieu en toi. Ah, je sais pas s'il faut que j'aille à tel endroit. C'est pas compliqué. Ne complique pas les choses. Est-ce que Jésus peut venir avec toi? Si Jésus peut venir avec toi, tu y vas. Mais si Jésus ne peut pas rentrer là où tu rentres, là où tu vas, alors le problème est vite réglé. Alors voyez-vous, chaque fois que nous nous posons ces questions et que nous nous laissons reprendre, alors nous montrons par là que la vie de Dieu est en nous. Amen. Nous montrons par là que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas de combat. Je ne veux pas dire que c'est, hein, il y a des fois, il y a des faiblesses, il y a des combats qui sont là. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que ce soit l'amour de Dieu qui domine et qui est le dernier mot, et non pas l'amour du monde. Sinon, la flamme va diminuer. Ah, mais moi, je suis chaque fois repris quand je fais ça ou quand je regarde ça. Alors, laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en toi et ôte de tes yeux, de tes oreilles, de ta bouche ce qui attriste le Seigneur et tu verras sa bénédiction. Amen. Très important. Un nouvel amour. Mais on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, Jésus a dit. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas avoir l'amour du monde dans son cœur et l'amour de Dieu, ça n'existe pas. Malheureusement, beaucoup de gens sont spécialistes dans ce domaine-là. Ils pensent qu'ils peuvent bien s'accommoder. Voilà. Un jour, on a demandé à un petit gamin, on lui a dit, dis donc, garçon, comment tu voudrais mourir ? Au sujet de Lazare et du mauvais riche, vous savez, il y a une parabole, donc enfin, c'est même pas une parabole, c'est une histoire, dans les évangiles, où il est parlé de Lazare et du mauvais riche. Du mauvais riche, oui, c'est ça, du mauvais riche. Oui, puis le pauvre, Lazare, c'était, comment il s'appelait ? Lazare, c'est bien ça ? Oui, ben c'est bien ça, il me semble bien. Voilà. Alors, on lui a demandé, comment est-ce que tu veux mourir ? Il a dit, voilà, moi, pendant ma vie, je voudrais vivre comme le mauvais riche. Et quand je serai mort, je voudrais mourir comme Lazare. Alors voyez-vous, autrement dit, il voulait avoir tout. Il voulait l'amour du monde et l'amour de Dieu. Il voulait les gloires de la terre, les richesses de cette terre, tout dans cette terre, et en plus, la gloire du ciel. Et il y en a beaucoup qui sont comme ses enfants. Ils veulent avoir le ciel. Mais aussi sur cette terre, ils veulent se priver de rien. Ils veulent vivre comme le monde, ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Mais on ne peut pas avoir les deux choses à la fois. Si on va voir tout le monde, le ciel nous sera fermé, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Où l'on aimera l'un et on haïra l'autre, mais on ne peut pas aimer les deux en même temps. Il y a un choix à faire. L'amour de Dieu. Alléluia. Troisième signe maintenant. Un troisième signe. C'est une nouvelle haine du péché. Une nouvelle haine du péché. Ça, c'est un bon signe encore. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Une nouvelle haine du péché. Ça, c'est un bon signe que vraiment la vie de Dieu agit en vous lorsque vous haïssez le péché. Je lis ce verset. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Alors là, il y a une petite correction qu'il faut faire à cette version. Parce que là, quand on lit ça, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, c'est comme si ça voulait dire ici, autrement dit, quelqu'un qui est né de Dieu converti, il ne fait jamais de péché. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est pas la bonne traduction. La bonne traduction ici, c'est quiconque est né de Dieu ne pratique pas volontairement le péché. Voilà la différence. Vous voyez ? Autrefois, lorsque nous étions inconvertis, on pratiquait volontairement le péché, n'est-ce pas vrai ? Volontairement. Maintenant que nous sommes chrétiens, nous ne pratiquons plus volontairement le péché. Le péché devient involontaire. Autrefois, avant d'être converti, le péché, c'était une habitude. Mais maintenant, pour un chrétien, le péché, c'est un accident. Vous voyez la différence ? Si quelqu'un se dit chrétien et qui continue de pécher par habitude, comme avant, dans sa vie, il montre par là que la vie de Dieu n'est pas en lui. C'est un test. C'est un test. S'il n'est pas repris intérieurement par une voix qui lui dit « Hé, ça va pas.
ça. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Ce péché, la Bible condamne. Tu ne peux pas faire ça. Ça déplaît à Dieu. S'il n'y a pas ça, alors c'est une preuve évidente que la personne n'est pas née de nouveau, qu'elle n'a pas l'Esprit de Dieu et qu'elle est encore dans le monde. Elle peut être religieuse, cette personne, mais elle n'est pas sauvée. Voyez-vous, alors, le troisième test ici, c'est un amour, je veux dire, un nouvel amour pour Dieu, donc le deuxièmement, et troisièmement, une nouvelle haine du péché. Une nouvelle haine du péché. Celui qui est né de Dieu ne pratique plus volontairement le péché. Alors là, nous devons justement avoir cette attitude-là à l'égard du péché. Nous ne devons pas seulement confesser notre péché quand nous avons fait une faute, mais nous devons dire, Seigneur, je confesse, j'abandonne et je hais mon péché. Bien souvent, même certains chrétiens ont des problèmes avec certaines tentations, certains péchés qu'ils faisaient autrefois. Et alors, après leur conversion, il y a encore des combats qui sont là. Alors, le problème, bien souvent, est celui-ci, c'est que à notre conversion, on a demandé pardon au Seigneur avec la détermination d'abandonner ce péché. Et alors, sur le moment, ça va bien, on a expérimenté une grande joie. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se remanifeste en nous et on risque d'avoir certains problèmes. Alors là, Dieu nous dit, pour qu'il y ait vraiment, que l'action aille en profondeur, on ne doit pas seulement confesser, abandonner son péché, mais on doit le haïr aussi. Haïr et dire, Seigneur, ce péché-là, je veux le détester. Je déteste ce péché. Parce que vous savez, vous pouvez confesser, abandonner, et puis et ça risque de durer longtemps. Mais en nous, l'Esprit de Dieu en nous nous pousse à dire non seulement, Seigneur, je te demande pardon, je l'abandonne, mais je hais ce péché. Je le hais. Car c'est le péché qui a crucifié le Seigneur, n'est-ce pas vrai? C'est notre péché qui a fait souffrir le Seigneur. Et à l'égard du péché, nous devons avoir cette haine désormais. Cette haine. Je hais ce péché. J'en ai été esclave avant, mais maintenant je le hais. Je n'en veux plus. Je hais cela. Et vous verrez, l'aide du Seigneur, l'Esprit du Seigneur vient toujours en aide à la personne qui hait son péché. Alléluia! Vous serez étonnés de voir que le Saint-Esprit sera là pour vous aider, pour vous donner la force lorsque vous avez pris la décision de haïr le péché. Mais il faut que ce soit du fond du cœur. Moi, avec un certain péché, même après ma conversion, j'ai eu des problèmes. Et je me demandais, mais pourquoi je ne m'en sors pas comme ça? Et le Seigneur m'a montré qu'il ne fallait pas seulement confesser et dire j'abandonne, mais il fallait que je haïsse ce péché. Parce que dans le fond de mon cœur, il y avait une certaine affection encore. Vous savez, j'étais triste à cause des résultats, des conséquences du péché. Bien souvent, on est triste à cause des conséquences du péché, mais pas du péché lui-même. Avez-vous pensé à cela? Concernant un péché, on veut en être délivré, mais c'est plutôt des conséquences, c'est les conséquences qui nous font peur. Mais le péché lui-même, dans le fond du cœur, ça nous plaît. Mais on veut être délivré de ses conséquences. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut haïr même le péché. Et c'est quand j'ai pris cette décision de haïr, non, de plus avoir cette affection secrète dans mon cœur concernant cette chose. J'ai dit non maintenant. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai affectionné pendant des années, je ne dois pas seulement le confesser et dire j'abandonne comme ça du bout des lèvres, je dois le haïr. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la délivrance. Que je veux dire, vraiment, ce péché-là n'a plus eu de pouvoir sur moi. À partir du moment où je l'ai haï de tout mon cœur. Amen. Ça, c'est un bon signe. L'amour de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous, nous fait aimer Dieu, mais haïr le péché. Ça, c'est un bon signe. Un bon signe. Je prends souvent l'exemple de cette jeune fille qu'on devait baptiser à l'église. C'était une adolescente qu'on devait baptiser donc par immersion. Alors, le pasteur et les responsables de l'église se demandaient si elle était prête, comme c'était une adolescente. Alors, ils disaient, mais est-ce qu'elle a compris quelque chose? Alors, peut-être qu'elle n'a pas bien compris. Alors, on va faire un questionnaire. Et Le pasteur et les responsables ont posé quelques questions à cette jeune fille. Mais est-ce que Jésus est vraiment ton sauveur? Mais oui, il est mon sauveur. Est-ce que tu as vraiment compris la croix, tout ça, le pardon? Oui, mais j'ai compris. Oui. Alors, il n'était encore pas convaincu. Alors, la jeune fille, quand elle voyait un peu les difficultés de du pasteur et des responsables, a dit, écoutez, maintenant, je vais vous donner une petite pensée. Je pense que ça va vous aider. Autrefois, je courais après le péché. Mais maintenant que Jésus est mon sauveur, je fuis loin du péché. Quand le pasteur a entendu ça, tout de suite, immédiatement, tu peux te faire baptiser. Viens vite ici, on va te plonger dans l'eau. Toi, tu as compris quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Autrefois, je courais après le péché, voyez-vous. C'est ça, on est tous comme ça, on court après le péché. Le péché est une habitude. Mais maintenant, je fuis loin du péché. Ah, tiens, tu as compris quelque chose. Quelqu'un qui a compris cela, il a compris justement la croix. Il a compris les conséquences du péché dans la vie de quelqu'un. Alors, voilà, une nouvelle haine du péché. Et cela, il faut entretenir cette haine. J'allais dire, c'est une sainte haine. C'est pas son mari, sa femme, ses enfants qu'il faut haïr. C'est le péché. Celui qui hait le péché sera rempli d'amour pour son mari et sa femme. Ou ses enfants, ou son frère, ou sa sœur. N'est-ce pas vrai? Tu pourras vraiment aimer les autres quand il y a cette haine en toi. Mais la haine du péché. Voyez-vous les deux ensemble? L'amour et la haine peuvent bien habiter ensemble. Ah oui, mais quel amour! L'amour pour Dieu et la haine du péché. Si ces deux-là, il faut bien les laisser ensemble. Il faut bien les laisser ensemble. Ils font un bon mariage. L'amour de Dieu et la haine du péché. Si tu les gardes bien ensemble, tu vivras heureux. Alléluia! Et la vie de Dieu continuera d'agir en toi et au travers de toi. Mais que quelqu'un pêche et fasse des mauvaises choses, il dit, qu'est-ce qu'il y a de mal? Pourtant, selon la parole de Dieu, c'est flagrant. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Voyons, il ne faut quand même pas être fanatique. Ça, c'est un peu du fanatisme. C'est un peu de l'hystérie religieuse, ça. C'est un peu de l'hystérie. Monsieur, vous êtes hystérique. À la foire, là, je vous en avais parlé, à la foire de Chambéry, on se promenait avec Dorothée dans les stands, et puis d'un seul coup, je vois, oh, sur un stand, une Bible. Ah, j'ai dit, c'est une Bible, c'est bien. Et puis je regarde la dame qui était là, j'ai dit, vous vendez des Bibles? Oui, tout ça, c'est... Ah, oui, bien sûr, ah, c'est bien. Ah, mais il faut que tout le monde ait une Bible, comme ça, au moins, c'est quelque chose, c'est une présence indispensable dans la maison, c'est un art, c'est... Ah bon? Mais je lui dis, mais c'est pas seulement pour ça qu'il faut avoir la Bible à la maison. C'est pas un ornement, hein? Un livre historique, et puis c'est aussi quelque chose, c'est un art. Enfin, il y a beaucoup. Je lui dis, mais c'est pas, on lit pas la Bible pour ça. Il faut mettre la Bible en pratique. Il faut mettre la Bible en pratique. Parce que Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée. Donc on peut pas, quand on lit la Bible, Jésus prend toute notre vie, il est le maître de tout. Quand je commence à dire ça, elle m'a dit, monsieur, vous êtes un passionné, vous. Vous êtes un passionné! Et moi, dans mon cœur, je disais, si je pouvais être plus passionné pour le Seigneur. Mais regardez, passionné. Quand je lui disais que c'était pas le tout de lire la Bible ou de vendre la Bible, il fallait la mettre en pratique. Elle vendait des Bibles, mais elle était loin de mettre la Bible en pratique. Et c'est pour ça qu'elle était un peu dérangée. Elle s'est cachée derrière cette excuse, vous êtes un passionné, monsieur. Comme pour dire, il ne faut quand même pas exagérer, là vous exagérez. La Bible dit d'aimer, tout ça, oui d'accord, mais il ne faut pas aller trop loin. Comme pour dire, voyez-vous. Alors oui, alors donc, ça montre, elle m'a révélé clairement que ce n'était pas une authentique chrétienne. C'était une religieuse. Ah oui, c'est clair, c'est net. Ces signes-là, vous savez, ce sont des signes, ça. Je vous parle de signes de vie nouvelle. C'est des tests. Vous pouvez vous-même vous en rendre compte. Et vous le voyez d'abord en vous-même. Autrefois, quand vous péchiez, qu'est-ce que vous faisiez? Vous aimiez le péché, on l'aimait, il n'y avait rien qui nous dérangeait. Mais maintenant, ça nous dérange. Quand il y a quelque chose qu'on fait, une parole qu'on dit de travers, ou une attitude mauvaise à l'égard de son mari, de sa femme, de ses enfants, ou de son frère à l'église, on a une attitude qui déplaît, ou je ne sais pas, au travail, il y a quelque chose qui... Alors, on est repris, c'est normal. C'est le signe que l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais si on était toujours les mêmes et que rien ne change, alors il faudrait vraiment se demander si on est né de nouveau, si l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. C'est très important. Une haine du péché. Quatrièmement, un nouvel amour pour les autres chrétiens. Voilà, un nouvel amour pour les autres chrétiens. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Verset 14. 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alors 1 Jean, chapitre 3, verset 14 et 15. Alors voyez ce verset. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alors là aussi, c'est un signe que vraiment nous sommes nés de nouveau, que nous appartenons au Seigneur, lorsque à cette haine, cette amertume qu'il y avait autrefois dans notre cœur, il y a maintenant cet amour pour nos frères. Cet amour. Et cet amour se manifeste par des actes. Cet amour est là pour montrer que vraiment nous sommes nés de nouveau. Donc il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose qui a changé. C'est là aussi un point important. On ne peut pas dire, vous voyez, j'aime Dieu sans qu'il y ait un écho à l'égard des frères. Il y en a qui ont une relation avec Dieu qui n'est que verticale. La relation horizontale n'existe pas. Alors, ils disent, moi je suis chrétien, je suis chrétien. Mais alors, concernant leur relation verticale, c'est la catastrophe. Ils ne prennent absolument pas garde à leur relation avec les autres. Mais comment savoir que les autres, comment les autres peuvent-ils savoir que vous êtes chrétien, né de nouveau, en voyant l'amour de Dieu dans votre cœur, n'est-ce pas vrai? Ça, c'est le signe visible. Si autrefois, vous aviez tel caractère et que maintenant vous manifestez tel autre caractère positif, alors les gens verront, ah, mais tu as changé. Vous savez, quand c'est les autres, ce sont les autres qui vous disent que vous avez changé. Ça, c'est un bon témoignage. Parce que bien souvent, c'est nous-mêmes qui nous plaçons en disant « Ouais, mais moi j'ai changé, moi maintenant j'ai changé, pas seulement à l'égard des frères, mais aussi à l'égard de nos camarades et tout, maintenant moi j'ai changé et tout. » Ah bon, t'as changé? Et il faut que ce soit toi qui le dise, mais nous on voit rien du tout. Alors voyez-vous, on peut se tromper soi-même et se dire soi-même « Mais j'ai changé !» Qu'est-ce que t'as changé? Moi je vois, on voit pas grand-chose. Quand c'est seulement vous qui dites que vous avez changé, et que ceux qui vivent autour de vous ne le voient pas, alors je doute vraiment si vous avez changé. Mais quand vous le dites vous-même, et que les autres le confirment, par exemple ton mari à côté de toi, ta femme, tes enfants, même tes camarades, quand ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec toi, mais ils te voient. Ils disent, oh là là, dis donc, depuis que tu te dis soi-disant chrétien, là, tu n'es plus le même, on ne te reconnaît plus. Ça, c'est un merveilleux témoignage. C'est un compliment qu'on vous fait. Alléluia! Ça, c'est un compliment! Tu as changé! Les autres le voient! Et ça, c'est très important. Et c'est ce passage qui montre ça. Ce qui veut dire, lorsqu'on est vraiment, on a la vie de Dieu en nous, eh bien, il y a une manifestation de l'amour de Dieu qui est là, n'est-ce pas vrai? Et cet amour, ça ne veut pas dire que, comme maintenant on l'entend, souvent quand on parle de l'amour, maintenant il faut toujours recorriger les choses. Parce que quand on parle de l'amour, ça veut dire, il faut dire aux gens, vous êtes gentils, Dieu vous aime, et puis on ne dit pas la vérité aux gens. Encore une fois, quand j'entends parler quelqu'un qui parle de l'amour sans parler de la vérité, cette personne révèle qu'elle ne connaît pas le véritable amour. L'amour de Dieu selon la parole est toujours en relation avec la parole de Dieu. D'ailleurs, un autre passage dit dans 1 Jean 5, verset 3, je crois, « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Voyez-vous, ce n'est pas un amour comme ça à l'eau de rose. C'est un amour qui se manifeste dans la vérité. Et quand on aime quelqu'un, on lui dit toujours la vérité, n'est-ce pas vrai? Et on doit dire la vérité dans l'amour. Ça, c'est le véritable amour. Mais là, dans ce passage-là, c'est ce changement de vie à l'intérieur. Voyez-vous, la relation avec Dieu, ce n'est pas seulement « Oh Jésus, je t'aime, je t'aime ». Et puis que dans nos relations, dans la maison, dans l'église ou dans le travail, il n'y a pas de changement. Alors là, s'il n'y a pas de changement, mes chers amis, il faut se poser la question, cette personne n'est pas vraiment convertie. Et si vous avez un petit chat ou un petit chien à la maison, eux aussi doivent s'en rendre compte. Le petit chien aussi doit s'en rendre compte. Si avant tu tapes ton chien, même le chien, il peut se rendre compte que tu as changé. C'est cela. Il se passe quelque chose, n'est-ce pas vrai? Une vie nouvelle. Et il ne peut pas parler, le petit chien, mais il nous dit, mais il est gentil, mon maître, maintenant, il ne me parle plus comme avant. Quelque chose s'est passé en lui. Alléluia. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Vous voyez, autrefois, nous étions pleins de haine, d'amertume, n'est-ce pas vrai? Maintenant, il y a cet amour de Dieu qui est là, et qui veut aider les autres, qui veut sauver les autres, qui veut bénir les autres, qui veut amener les autres au pied de la croix. Il y a cet amour des perdus aussi, cet amour qui est là. Il y a quelque chose en nous qui a été placé, une semence d'amour. Cette semence est là. Et quelqu'un qui méprise continuellement les autres, qui hait les autres, révèle par là que cette personne n'est pas vraiment convertie. La semence divine en nous est une semence d'amour, alléluia, qui nous fait aimer les personnes pour les amener au pied de la croix et leur prêcher la vérité. Non pas pour leur cacher la vérité, il y en a qui au nom de l'amour cachent la vérité. Laissez-moi dire une chose, ça c'est pas l'amour, c'est des sentiments, c'est tout. Mais au nom de l'amour, nous devons dire la vérité, mais dans l'amour. Mais jamais cacher la vérité, car l'amour ne cache pas la vérité, n'est-ce pas vrai? Supposez un couple et qui commence à se dire, à se cacher la vérité, vous croyez que ça va durer longtemps? L'amour même qui les lie, les pousse à être dans la vérité, n'est-ce pas vrai? Si un couple n'est plus dans la vérité, il n'est plus dans l'amour. Si un couple, un conjoint cache quelque chose à l'autre, vous croyez que ça va marcher longtemps? Tôt ou tard, il y aura quelque chose qui n'ira pas. Mais pourquoi il y a cet amour sincère, profond entre eux? Parce qu'ils sont dans la vérité. Amen. Ils sont dans la vérité, l'un à l'égard de l'autre. Quand quelque chose ne va pas, on le dit, c'est la vérité. La vérité est là, et c'est ainsi que l'amour est entretenu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Ça, c'est un signe. Et ça commence à la maison. Aimer son mari, sa femme, ceux qui ne sont pas chrétiens, ses enfants. Il faut que les autres voient que nous sommes transformés. Au travail aussi, il faut qu'ils voient que quelque chose a changé. Il faut qu'ils le voient. Il faut qu'ils le voient. On se moquera peut-être de nous, mais on ne doit plus avoir les mêmes réactions qu'avant. Et si on a une mauvaise réaction, on dit, Seigneur, pardonne, mais je veux recommencer. Je veux avoir une bonne attitude. Amen. Il ne faut pas accepter de défaite dans ce domaine-là. Si on a fait une faute, il faut dire pardon, Seigneur. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous est là pour nous aider. Et dit, voilà, je vais t'aider. Je vais t'aider. Demande pardon. Je vais t'aider. Et je mettrai cet amour en toi. Mais continue d'aimer. Continue de persévérer. Reste avec moi. Reste dans mon amour. Reste près de moi, je t'aiderai. Et Dieu vous aidera. Et vous remporterez des grandes victoires là où vous avez eu de grandes défaites. Alléluia. Sur vos points les plus faibles, Dieu vous donnera de grandes victoires. Que personne ne se laisse arrêter. Que personne ne se décourage. L'Esprit de Dieu qui est en vous ne veut pas vous abandonner, il veut vous aider au contraire. Et il te dit, mon enfant, là tu as des problèmes. Là tu as... Mais je veux t'aider, je veux t'aider. Toi, livre-moi ta vie. Sois décidé à aller jusqu'au bout. Et je t'aiderai. Ce que tu ne peux pas faire, moi, je le ferai pour toi. Alléluia. Et quand la chose se réalisera, tu en donneras toute la gloire à Dieu. Tu ne pourras pas te glorifier parce que tu réaliseras que finalement, ce que tu es maintenant, c'est par la grâce de Dieu que tu l'es. N'est-ce pas vrai? Moi, ce que je suis aujourd'hui, ça l'est par la grâce de Dieu. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. N'est-ce pas vrai? C'est la grâce de Dieu. Combien d'entre vous, est-ce que vous seriez encore vivant si Dieu n'était pas là? Si Dieu n'était pas intervenu dans votre vie? Est-ce que vous feriez ce que vous faites maintenant? En tout cas, laissez-moi dire une chose, jamais j'aurais fait ce que je fais maintenant. Moi, j'étais un jeune homme timide, complexé, beaucoup de problèmes dans ma jeunesse. Jamais, quand je pense à ce que je fais maintenant, je ne peux que donner toute la gloire à Dieu. Si j'étais livré à moi-même, jamais ma vie aurait été un gâchis. Un gâchis, je vous le dis, esclave de tant de passions, tant de choses. Mais combien je remercie le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et vous êtes aussi, par la grâce de Dieu, ce que vous êtes. Ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, donnez-lui en gloire. Et ce qui reste à faire, Faites-lui confiance. Ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera. Ne vous découragez pas. Ne nous décourageons pas. Ne te décroche pas. L'Esprit du Dieu qui est en là, en toi, quand il te reprend, c'est jamais pour t'abattre, pour te détruire et pour te dire il n'y a plus d'espoir. Jamais. La vie qui est en toi, c'est la vie de Dieu, nous donne toujours un espoir. Amen. Toujours un espoir. Si tu entends une voix qui te dit maintenant c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour toi, ça c'est la voix du malin. Ça c'est le malin. C'est le malin qui ferme la porte et qui brise toute espérance. Mais la voix de Dieu nous montre le péché, mais toujours avec l'espérance du pardon et d'une nouvelle vie avec lui. Alléluia. Cinquièmement, un nouveau discernement. Quand l'Esprit de Dieu entre en nous, quand nous avons cette vie nouvelle, Dieu nous donne un nouveau discernement. 1 Jean chapitre 4, verset 3, 1 à 3. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 3. Un nouveau discernement. 1 Jean 4, 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Christ est venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu qui est en nous nous donne un discernement et nous donne de réaliser ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. L'Esprit de Dieu est là. Souvent, à l'égard de certaines choses, nous sommes mal à l'aise. À l'égard de certaines doctrines, à l'égard de certaines lectures, à l'égard de certaines choses, nous sommes mal à l'aise. L'esprit qui est en nous est un esprit de vérité, n'est-ce pas vrai? Et quand il y a un mensonge qui est là, tout de suite, l'Esprit de Dieu qui est en nous nous aide à voir la différence. Mais pour cela, il faut que le chrétien, né de nouveau, se nourrisse de la parole de Dieu. Un chrétien qui n'est pas nourri de la parole de Dieu est facilement séduit par le diable. Un chrétien qui n'est pas nourri de la parole de Dieu n'a pas de discernement. Et vous pouvez avoir du discernement si vous êtes rempli de la parole de Dieu. De telle sorte que lorsque vous entendez une nouvelle doctrine ou de nouvelles choses, une nouvelle religion, une nouvelle philosophie, vous êtes là et dites, hey, c'est bien beau ce que tu dis, mais la parole de Dieu dit autrement. La parole de Dieu dit autrement. La parole de Dieu dit autrement. Et ainsi vous serez inébranlable. Personne ne pourra vous séduire. Amen. Très important, très important. Un chrétien qui ne connaît pas bien sa Bible, c'est un chrétien qui se laissera séduire par le diable. Et la Bible dit même de certains chrétiens, dans 1 Timothée chapitre 4, que certains abandonneront la foi dans les derniers temps pour s'attacher à des doctrines de démons. Il est parlé de chrétiens. 1 Timothée 4, verset 1. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, voyez-vous, c'est donc des chrétiens, pour s'attacher à des doctrines de démons. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissaient pas leurs paroles. Ils se contentaient d'un petit salut, et c'est tout. Se contenter d'un petit salut, c'est très dangereux. Nous devons méditer la parole. Nous devons être remplis. La Bible dit que soyez remplis de la parole de Dieu. Et quand l'ennemi vient avec un mensonge, une fausse doctrine, la parole de Dieu qui est en vous et l'Esprit de Dieu qui est en vous met en garde. Il dit, attention, là il y a quelque chose qui n'est pas d'accord. Même si vous ne voyez pas tout de suite la chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous devez veiller. L'Esprit de Dieu en vous et la parole de Dieu vous garderont. Et vous donneront ce discernement indispensable dans ces temps de la fin. Indispensable. C'est pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit et rempli de la parole de Dieu. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit et rempli de la parole de Dieu dévoilera les ruses du diable, les fausses doctrines et ne se laissera pas prendre. Amen. Très important. Alors, sixièmement, je vais terminer maintenant, sixièmement, un nouvel ennemi, vous vous rendez compte? Ça c'est 1 Jean chapitre 5, versets 18 et 19, 1 Jean 5, 18 et 19, 1 Jean 5, 18 et 19, qu'est-ce qu'il est dit ici? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voyez-vous ? C'est quand on se convertit, qu'on se donne à Jésus, qu'on réalise qu'on a un ennemi. Avant cela, on parle même avant de se convertir, souvent, voyez-vous, les gens, ils ne voient pas du tout le diable. Dans les fausses religions, avez-vous remarqué, le diable, on n'en parle jamais. 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 Quand il y a des manifestations surnaturelles, extraordinaires, on dit, ça c'est des manifestations, c'est psychique, psychologique, et tout ça, mais on ne voit pas le diable. Et en général, quand quelqu'un ne sait pas discerner le diable, quand il y a le diable, c'est une personne qui n'est pas née de nouveau, c'est une personne qui n'est pas convertie. Parce que c'est quand on est converti qu'on quitte le diable. Amen. Autrefois, il était notre maître. On était esclaves du diable. Mais maintenant que nous sommes convertis, nous avons changé de maître. La conversion, c'est un changement de propriétaire. Notre ancien patron, c'était le diable. Et notre nouveau patron, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Alors, dites-moi un petit peu. Vous dites, mais depuis que je suis converti, il y a le diable qui m'attaque. Eh bien, je vous dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est bon signe. Parce que tant que vous n'êtes pas converti, il vous laisse tranquille, le diable. C'est quand vous décidez à suivre le Seigneur et à marcher avec lui qu'il va pas vous laisser tranquille. Mais vous dites, mais il me dérange. Mais gloire à Dieu! Jésus est en vous et le malin ne vous touchera pas. Si tu es né de Dieu et que tu te gardes toi-même, le malin ne te touchera pas. Alléluia! Mais c'est bon signe. Tu vas avoir des combats, tu vas avoir un nouvel ennemi, mais c'est rien. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Et je termine maintenant. Septième signe, une nouvelle puissance sur l'ennemi. Une nouvelle puissance sur l'ennemi. Quand on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus fort que toutes les puissances du diable. Une nouvelle puissance sur le diable. Et comme référence, 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, 4. C'est facile à retenir. 1 Jean 4, 4. Un verset 4, 4. Jean 4, 1 Jean 4, 4. Donc, une nouvelle puissance sur le diable. Et quel est ce verset ? Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Autrement dit, maintenant que nous sommes chrétiens, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le malin, le diable ne peut pas faire ce qu'il veut avec toi. Au contraire, au nom de Jésus, tu as autorité sur le diable. Alléluia ! Et le plus petit chrétien au milieu de nous, au nom de Jésus, a d'autorité. Vous pouvez lier le diable et les démons lorsqu'ils s'opposent à vous. Vous pouvez le faire. Pourquoi ? Parce que vous êtes quelqu'un ? Pas du tout. Nous ne sommes rien sans Christ. Mais puisque Christ habite en nous et que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous avons autorité sur le diable. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia ! Pour un chrétien, je termine maintenant. Autrefois, nous avions peur du diable, mais maintenant que nous connaissons Christ, c'est le diable qui a peur de nous. C'est le diable qui a peur de nous. Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Quand quelqu'un fuit loin de vous, c'est qu'il a peur de vous. Vous êtes d'accord avec moi ? Il en est de même maintenant du diable. Christ est en vous et il a peur de vous parce que Christ habite en vous. Gloire au Seigneur. Alors, ne désespérons pas. Il y aura des combats, mais c'est un combat victorieux. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire et l'assurance de la victoire. Au nom de Jésus, tu as autorité sur le diable. Quand il te taquine, lis-le au nom de Jésus. Quand il perturbe ton mari, ta femme, tes enfants, lis la puissance du diable au nom de Jésus et tu auras la victoire. Persévère, tiens ferme et la victoire est à toi. Gloire au Seigneur. Amen.